Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, c'est un warm-up spécial parce que c'est le Grand Prix de Monaco. Et qui dit Grand Prix de Monaco dit à chaque fois événement exceptionnel dans cette saison de Formule 1. C'est un Grand Prix qu'on va essayer de vous faire vivre différemment. Parce que RMC est sur place à Monaco, on vous prépare des petits contenus un peu sympas, donc restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Podcast Paddock RMC, vous foncez le faire sur toutes les plateformes de téléchargement, comme ça vous avez toutes les notifications qui tombent à chaque fois qu'il y a du contenu qui est mis en ligne. Et puis voilà, vous suivez également la page Instagram Paddock RMC hein, pour tout suivre de ce Grand Prix de Monaco. Je le disais, warm-up spécial, on va bien évidemment parler de Charles Leclerc, l'enfant du pays qui a prolongé. C'était hier que la nouvelle est tombée. Vous savez qu'on enregistre le warm-up le jeudi. Charles Leclerc qui s'est engagé encore plus dans la durée avec la Scuderia. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il a fait le choix de raison, le choix du cœur? Est-ce qu'il sera champion du monde dans sa Scuderia Ferrari? Charles Leclerc, on va revenir sur tout ça. Et puis on va vous présenter ce Grand Prix de Monaco avec les ingénieurs qui sont à mes côtés aujourd'hui. Séraphin Bette avec Ilyes Barry. Salut Ilyes.
Salut tout le monde.
Les amis, ben c'est parti, on va se plonger dans ce warm-up du Grand Prix de Monaco. Allez, je vous donne le programme. 13h30, la première séance d'essai libre, ce sera ce vendredi. La deuxième à 17h, samedi. La troisième séance d'essai libre à partir de minuit et demi. Et à 16h, les qualifs. La course, ce sera dimanche à 15h. Voilà pour ce Grand Prix de Monaco. Avant toute chose, les gars, notre petite présentation traditionnelle avant ce week-end de course. Quelle est la météo qui est annoncée? Est-ce qu'on peut être un petit peu surpris ce week-end à Monaco? D'habitude, on le sait, c'est grand soleil, temps sec. On n'est pas trop perturbé par les conditions météo ici, hein, globalement, Séraphin.
Oh non, écoute, là, ce week-end, de ce que j'ai vu en plus, c'est sec. On est sur des, on a un petit 20 degrés, je crois, en course, donc ça devrait aller. Mais le risque de pluie semble... Pas venir le bout de son nez ce week-end, ça devrait être une course sur le sec, oui.
Bon les copains, on va se pencher un petit peu aussi sur, et on le fait avant chaque week-end de course avec cette nouvelle réglementation là, sur ce que ça va changer, ces nouvelles F1 version 2026 à Monaco. Il y a pour la première fois de la saison un règlement qui est forcément adapté au Grand Prix de Monaco, qui est un circuit traditionnel en ville, voilà, avec une piste nettement moins large. Faut pas que les voitures aillent trop vite à Monaco, sinon en termes de sécurité c'est dangereux. Ilyes, il y a pas mal de choses qui bougent au niveau du règlement hein, pour ce Grand Prix.
Ouais, bah, ils ont un peu bridé ces Formule 1 pour le Grand Prix de Monaco, ce qui est peut-être une bonne chose au final. Après, je trouve quand même que quand on bouge un règlement de Formule 1 pour des raisons sécuritaires selon le Grand Prix, c'est peut-être un aveu d'échec quand même sur la réglementation.
Ouais, mais ça on va y revenir. Tiens, bah Séraphin, détaille-nous un petit peu ce qui s'est passé pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui va se passer ce week-end. En effet, il y a parlé de ces F1, de cette vitesse qui va être un peu bridée. Et je crois que ça, voilà, il y a des modifs également au niveau de l'aéroactive.
Et tout à fait. Alors, on dit souvent aujourd'hui que les F1 ne sont plus adaptés à Monaco. Et on le reproche hein, depuis de nombreuses années. Et là, effectivement, même si il faut quand même le souligner, on a gagné en empattement et on a perdu en poids, hein, 30 kilos de moins cette année, ce qui devrait quand même, je pense, pour les pilotes, les aider, en tout cas, eux, dans leur week-end. Effectivement, comme l'a dit Ilyes, on a décidé de limiter, en tout cas, certains points du règlement qui avait été introduit cette année en 2026. Et le premier, bah, c'est l'aéroactive hein, qui a été introduite cette année. Puisqu'on n'aura qu'un seul mode, on n'aura pas de mode ligne droite notamment, donc avec les ailerons avant et arrière qui sont abaissés pour augmenter la vitesse de pointe. Et effectivement, on n'a pas ce mode-là pour des raisons, on l'a dit, de sécurité, pour éviter que les voitures se retrouvent avec des vitesses de pointe trop importantes.
Hein, trop élevées.
On pense évidemment au tunnel ou encore dans la ligne droite de départ-arrivée hein, avant le virage de Sainte-Dévote. Donc, c'est un premier point. Et le second, c'est que la FIA a demandé aux écuries de limiter en fait, le déploiement électrique de ces moteurs, et notamment de la partie MGUK, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 50% de l'énergie, en tout cas de la puissance, il vient de l'électrique. Et donc, on a une cartographie finalement un peu unique pour Monaco. Et de façon très précise, pour vous donner une idée, c'est qu'à aujourd'hui, les Formule 1, à partir de 290 km/h en temps normal, on commence progressivement à avoir une diminution du déploiement de la partie électrique des Formule 1. Et du coup, pour ce Grand Prix, on sait que c'est à partir de 200 km/h. Donc, il y a quand même un énorme écart. Et à partir de 200 km/h, on va avoir tout doucement une diminution du déploiement électrique. Encore une fois, c'est pour qu'on évite d'avoir des vitesses de pointe trop élevées et qu'on se retrouve avec des situations dangereuses. Donc, je ne sais pas, et là, il faudrait peut-être demander à Jean-Luc si c'est déjà arrivé, si c'est unique, en tout cas, on bride les voitures pour des questions de sécurité parce qu'on a conçu des Formule 1 qui vont trop vite dans ce tracé qui risque, où on sait très bien augmenter les murs et où il y a des limites de sécurité aussi hein, pour les pilotes en cas de crash. Voilà.
Ouais, alors, mais en fait, on est forcément un peu partagé parce que je suis d'accord avec Iliès sur le fait que est-ce que c'est pas un aveu d'impuissance, un constat de faiblesse, de voir un règlement que tu es obligé d'adapter. Après, les voitures, elles vont de plus en plus vite. Enfin, en tout cas, il y a la technologie qui évolue. Et si on veut garder ces circuits historiques, j'ai quand même la sensation, les gars, que le règlement, il est un peu obligé de s'adapter à ces pistes-là. Sinon, ces Grands Prix, à terme, ils sont voués à être supprimé du calendrier, surtout en plus Iliès, sur des tracés en ville où l'adhérence n'est pas la même, où ça peut être compliqué sur la prise de vitesse importante pour les monoplaces, avec ce revêtement qui est un revêtement urbain quoi. Je sais pas, je me dis que c'est quand même une bonne chose, ça nous permet d'avoir encore des grands prix de Formule 1 à Monaco les gars. Aussi cette adaptation de règlement, non ?
C'est clair, en fait c'est un bon compromis à avoir parce que la Formule 1 c'est toujours aller plus loin, aller plus vite, on le sait, et c'est bien pour la Formule 1, mais il faut garder un aspect sécuritaire justement pour garder un peu ses tracés en ville parce que t'imagines que si t'arrives avec 30 km/h de plus à la piscine, c'est compliqué et surtout c'est très dangereux parce qu'il n'y a pas beaucoup de dégagement. Donc je pense que en fait il faut juste trouver un bon compromis entre règlement, donc toujours aller plus vite, et aussi aspect sécuritaire, renforcer la sécurité.
Est-ce que c'est une bonne chose, Raphaël, là, ces adaptations ?
Je pense qu'ils étaient un peu obligés, en fait. On l'a dit, on a tellement ils étaient un peu obligés, en fait, s'ils voulaient, comme tu l'as dit, qu'on garde encore ce tracé qui est historique, évidemment. Monaco, et on n'a pas besoin de le rappeler, tellement il fait partie de l'identité de la Formule 1, tellement on a eu des courses extraordinaires et où l'exercice de la qualification... on le dit souvent, peut-être la plus belle qualification, tant les pilotes sont à la limite, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc si on veut garder ce calendrier, cette course qui est si unique, je pense effectivement qu'on n'a pas eu trop le choix, même si malheureusement, c'est quand même... Le problème, c'est que c'est aujourd'hui la Formule 1 qui n'est plus adaptée à ce tracé. On le dit encore une fois depuis très longtemps, la taille de ces voitures, le poids, elles vont réduire un petit peu, et ça va être plus agréable, mais ce n'est pas suffisant encore pour qu'on ait... Des dépassements, pour qu'on ait des vraies batailles. Donc malheureusement, c'est un aveu d'en venir à ces points-là.
Non, mais il y a un moment, ça devient même philosophique, en fait. C'est est-ce que tu veux garder ce qui faisait le sel de la Formule 1, l'histoire de la F1, avec ses courses, ses circuits qui sont présents depuis 40 ans au calendrier, ou est-ce qu'au bout d'un moment, tu fais table rase de tout ça et tu vas aller sur des circuits avec des promoteurs qui mettent beaucoup d'argent dans des pays émergents, les pays du Golfe, en Asie, et il n'y a plus de Monaco, il n'y a plus de Spa-Francorchamps, ce qui est en train de se passer un petit peu, où on voit que ces dates-là historiques sont d'année en année un peu supprimées du calendrier. Et moi personnellement, je veux voir des courses à Monaco. Je pense que c'est important. Moi je viens d'arriver à Monaco, là on enregistre ce podcast, en tout cas moi je suis présent à Monaco depuis quelques heures. Voilà, c'est des ambiances qu'il y a nulle part ailleurs. C'est un écosystème qui est tellement spécial, le Grand Prix de Monaco, il se passe tellement de choses, ça dépasse le cadre de la Formule 1 et du sport. Donc c'est indispensable que ces courses-là, elles restent là. Et puis, ce qui s'est passé sur la piste, ça reste la légende de la F1. Donc, heureusement que les instances ont encore cette conscience-là. Et tu vois, à mon sens, sont capables d'adapter un petit peu le règlement pour qu'on puisse voir des Formule 1 rouler. Les gars, la question que je voulais vous poser aussi, qui peut être importante, on est d'accord que toutes ces modifs de règlement à la marge, là, ça ne devrait pas impacter les perfs des monoplaces par rapport à ce qu'on a connu, par exemple, la saison dernière. C'est vrai qu'à Monaco, on attend tous le samedi et le tour de qualification. Normalement, on devrait avoir des voitures et des pilotes qui sont en mesure d'être à 100% et de lâcher les chevaux sur un tour, hein, les mecs.
Ouais, c'est clair. Et je ne pense pas que la hiérarchie va grandement changer. On le sait, Ferrari est annoncée plus ou moins favorite parce que bah, forcément, en vitesse de virage, elle épate depuis le début de saison. Et je ne pense pas que ces modifications vont changer grand-chose. Après, la question, c'est comment ces monoplaces vont s'adapter justement à ce circuit. Mais je pense que dans les hiérarchies, ça ne va pas changer grand-chose.
Ouais, on va voir ça parce que c'est vrai que tu as raison, le rapport de force à Monaco, Elias, il est toujours un petit peu différent. Je vais vous demander vos pronos à la fin de ce podcast. Mais les gars, je voulais quand même qu'on revienne sur la grosse info de la semaine, c'est la prolongation de Charles Leclerc avec la Scuderia Ferrari. On n'a pas de durée, on sait qu'il est en contrat jusqu'en 2023. Donc, il a peut-être prolongé d'une seule saison jusqu'en 2030, mais on imagine quand même que la prolongation est un petit peu plus longue. On peut du coup imaginer que Charles Leclerc va bien rester le pilote d'une seule écurie. Lui, il est revenu tout à l'heure en conférence de presse sur ce choix-là. On rappelle qu'il est arrivé dans la structure Ferrari il y a 10 ans désormais, en 2016, qu'il a été promu en F1 en 2019. Leclerc avec Ferrari, c'est 155 Grands Prix, 27 pole positions, 8 victoires. Il a dit, Charles Leclerc, qu'il n'avait jamais envisagé une autre possibilité. Parce que c'est vrai qu'à un moment, et on avait fait des débats, nous, dans le paddock RMC, les amis, en se demandant, est-ce que pour lui, il ne faut pas partir? Si jamais il veut chercher un titre de champion du monde, est-ce qu'un talent comme Leclerc, au bout d'un moment, ça doit être fidèle à la Scuderia Ferrari, quitte à ne jamais être titré? Il a fait le choix de la fidélité, de son écurie de cœur, de son rêve d'enfant. Est-ce que c'est un bon choix, Serafin, cette décision de Leclerc?
Eh ben, c'est une grande question, justement. Tu l'as dit, on en parlait déjà.
Non, mais pour toi, comment tu le ressens? Est-ce qu'il aurait dû partir pour aller chercher un titre? Ou toi, tu avais envie de le voir continuer avec la Scuderia? Parce que Leclerc, le voir porter autre chose qu'une combinaison rouge, c'est impensable, en fait.
Ben alors, c'est ça. Là, aujourd'hui, je suis heureux quand même qu'il soit resté à la Scuderia Ferrari. Parce que même s'il a écumé beaucoup d'années déjà, tu l'as dit, il y a eu des victoires, il y a eu cette saison 2022 où il a accroché Max Verstappen pendant une bonne partie de la saison. Mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, avec tant d'années, il incarne l'image de Ferrari. On sait qu'il représente aussi maintenant en Italie le symbole qu'il est devenu. C'est vrai qu'à aujourd'hui, je suis quand même satisfait qu'on le prolonge chez Ferrari parce qu'on a envie de voir aussi ce que peut donner cette Scuderia où on vient de passer d'une révolution complète en Formule 1 et où Ferrari est peut-être, à pas grand-chose en tout cas, de peut-être avoir l'une des meilleures voitures sur la grille de Formule 1. Et on sait que la saison, elle va apporter encore beaucoup de changements au fur et à mesure. On va encore vachement améliorer les voitures. Donc j'ai envie de croire qu'il n'y a que du mieux encore pour la Scuderia et que Charles, s'il reste et si l'année prochaine, ça continue d'aller dans le bon sens, ça peut le faire entre les deux. Mais encore une fois, c'est compliqué parce que la question qu'on se posait l'année dernière, c'était de se dire faut-il qu'il aille dans une autre écurie? On sait qu'il y a beaucoup de pilotes qui se retrouvent aujourd'hui en fin de contrat cette année. Mais c'est vrai qu'il est devenu, on aime autant, on aime Charles Leclerc parce qu'il est chez Ferrari et parce qu'il est dans cette combinaison. Et c'est vrai que c'est devenu tellement fort. Donc là, à aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne décision qu'il décide de rester. Alors, on le savait, mais du coup, là, effectivement, ça semble pour vraiment de longues années. Donc Il faudra voir ce que ça va donner.
Je vous le disais. Hein. Alors après, il avait des contrats. Il avait signé un contrat de 4 ans en 2024. Il avait des options pour 2027 et 2028. Visiblement, ces options ont été du coup levées. Je crois qu'il avait une option pour lui. Il y avait une option pour la Scuderia. Les deux ans ont été levés. Et donc, du coup, avec cet engagement pluriannuel, il va prolonger au moins jusqu'en 2030. En tout cas, on peut supposer tout ça. On peut supposer que les saisons 2029 et 2030 de Charles Leclerc, ça y est, sont verrouillées par la Scuderia Ferrari. Je vous parle pas du salaire parce qu'on l'a pas, mais on est bien évidemment sur des montants ultra ultra conséquents.
On dépasserait les 100 millions avec les deux équipes, avec les deux pilotes. Je lisais, ça serait un record parce que Hamilton est proche des 60 millions et Charles devrait être pas loin, en tout cas un peu moins, mais il devrait dans l'écurie avec les deux, on devrait effectivement avoir un énorme budget.
Parce que je crois qu'il a 40 millions sur la saison 2027, 44 millions en 2028,
je crois qu'on se rapproche des 50 en plus là.
Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il va encore augmenter. Donc, on se rapproche des 50 millions pour 2029 et 2030. Ça donne envie d'être pilote de F1 quand même, tout ça. Ilias. En fait, c'est toujours le marronnier et on fait un peu de la Formule 1 fiction en se demandant ça, mais on est obligé de se demander si Leclerc va gagner un jour avec la Scuderia. Parce qu'en plus, son entourage n'en est pas caché. Son agent, c'est Nicolas Todd. Il a dit qu'il avait été sollicité par d'autres top teams du plateau. On peut penser peut-être à Mercedes.
Mercedes
pouvait lui offrir... Ouais, McLaren. Mercedes, McLaren pouvait potentiellement lui offrir un baquet où dès 2028, ça pouvait le faire. Il était un candidat au titre de champion du monde. C'est vrai qu'il y a toujours ce truc de se dire Leclerc avec Ferrari, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'ils vont enfin en prendre un, quoi?
C'est clair. En fait, là, c'est un peu le choix du cœur. Là, c'est le cœur qui parle. On a tous envie de voir Leclerc gagner avec Ferrari. Je pense que c'est une bonne chose pour Ferrari de l'avoir sécurisé. Je pense qu'en fait, c'est plus Ferrari qui est gagnante dans le deal que Charles Leclerc. Leclerc, c'est un énorme talent. Il aurait pu retomber sur ses pattes. Et même, je suis choqué qu'il annonce aussitôt qu'il re-signe avec Ferrari. J'aurais peut-être pu penser qu'il attend 2027, voire même 2028, pour voir si la voiture est là et s'il peut gagner avec Ferrari. Et s'il veut changer, je pense que, on l'a dit, même Red Bull pouvait s'aligner sur lui. Donc, j'ai un peu peur pour Leclerc. Bien sûr que j'ai envie de le voir gagner avec Ferrari, mais je pense que c'est un peu trop le cœur qui parle et on doute.
Ouais, mais il y a toujours ce doute. Bien sûr que le choix du... En fait, c'est le choix de la raison. Moi, je me dis que des fois, les très grands champions, ils ont fait des choix qui étaient forts. On pense bien évidemment à Lewis Hamilton, qui était chez McLaren avec une voiture qui gagnait. Bim, il a fait le choix de partir chez Mercedes. Michael Schumacher, à l'époque, quand il gagne avec Benetton, qui décide de construire quelque chose avec la Scuderia Ferrari. Les très, très grands champions qui ont marqué l'histoire de la F1, ils ont su, à un moment, faire le choix fort de se dire « Ok, ce projet-là, peut-être que j'ai gagné, ou peut-être que je vais gagner dans les années à venir, mais je sens que si je bouge et que je vais là, c'est sûr, je peux marquer l'histoire. Et Leclerc, il a ce côté fidélité, tu vois, on peut pas lui reprocher ça quand même. Mais bon.
C'est clair, il s'obstine un peu avec Ferrari, et si on trouve une image, c'est un peu comme s'il est au casino, il a moins de 200, et là, il a tout perdu, et il all-in sur le rouge, en fait. Il met tout, il tablera sur le rouge et il espère se refaire, donc on va voir, hein, mais ça peut faire peur.
Ouais, alors bien évidemment, la Scuderia aussi a communiqué en disant que Charles Leclerc, il avait dépassé le cadre du simple pilote dans l'écurie, lui aussi, Leclerc, il parle de la Scuderia comme sa deuxième famille. Fred Vasseur, il a dit qu'il y avait une harmonie, une osmose parfaite entre Ferrari et son pilote. Je pense que ça dépasse le cadre du purement sportif, hein, même aussi dans le côté un peu ambassadeur de la marque et tout ça. Donc, et puis la Formule 1 reste un business de ce côté. Donc Charles Leclerc, il incarne la classe à la Ferrari, quoi. Ça peut pas matcher mieux que ça. En tout cas, on va voir ce que ça donne ce week-end pour Charles Leclerc sur ce Grand Prix de Monaco. Les gars, ça me du coup fait basculer sur ce qu'on veut et ce qu'on attend de ce week-end à Monaco. Les forces en présence, le rapport de force, qui on voit très fort, est-ce que Mercedes va encore dominer sur ce circuit qui est super spécifique, très particulier, ou pour le coup, Ilias t'en parlait un petit peu, la Scuderia qui est très rapide en virage va faire la différence. Séraphin, qu'est-ce que tu vois toi un petit peu, qu'est-ce que tu imagines là dans ta projection pour ce Grand Prix de Monaco?
Bah, écoute, à Monaco, on sait que la vitesse de pointe n'est pas l'élément le plus important, contrairement à ce qu'on a vu au Canada. Donc on va dire que l'avantage que peut avoir le moteur Mercedes depuis le début de la saison, évidemment, va avoir beaucoup moins d'intérêt sur ce Grand Prix. Et étant donné que c'est un circuit lent, hein, tout simplement, où on va faire plutôt la part au châssis, au comportement, à l'équilibre en fait de la voiture dans ces virages lents. Et c'est vrai qu'on, c'est pour ça qu'on met depuis plusieurs jours là, d'avant le Grand Prix, favori peut-être Ferrari, parce que on sait que depuis le début de la saison, ils l'ont montré, on l'a vu sur différents tracés, qui se comportent plutôt bien dans ce genre de situation. Néanmoins, on sait que voilà, Monaco, il y a aussi un naturel, un feeling entre la voiture et le pilote qui doit faire corps pour aller aux limites et approcher le plus près ces murs, parce que c'est ça qu'on veut voir, c'est les pilotes aller aux limites, faire des petits bisous en tapant les roues sur les barrières. Et donc oui, naturellement, on met Ferrari dans de bonnes positions. On sait que Charles Leclerc, il a 3 pole positions jusqu'à présent sur ce tracé. Il a gagné encore il y a 2 ans. Donc, il est très à l'aise avec ce tracé. Et on sait qu'il peut, avec cette voiture, aller venir chercher un petit plus avec Charles Leclerc. Donc, je mets Ferrari en très bonne position pour le week-end. On sait qu'Hamilton, ouais. Hamilton, il y a eu peut-être une bascule. On en a parlé encore au Canada. On a vu que ça y est, on trouve des solutions et cette voiture développée avec Lewis Hamilton semble vraiment beaucoup mieux le convenir depuis ce début de saison. Donc, est-ce que aussi pour Lewis Hamilton, ça pourrait pas être une première ligne, ça pourrait pas être une belle place? Moi, j'ai envie de voir Ferrari peut-être battre à la régulière Mercedes. Parce que aussi, on sait que s'il y a un week-end où on peut voir un autre vainqueur que Mercedes, c'est peut-être ici à Monaco. Et aussi, je voudrais mettre un point sur McLaren, où on sait que Lando Norris, l'année dernière, il a fait la pole position, il a gagné le Grand Prix. Il est le seul pilote à être descendu sous la minute 10 en qualification. C'était un moment historique lors de la qualification. Donc, on sait qu'il est aussi très à l'aise et la voiture peut bien se comporter. Donc, je pense sincèrement que la différence va se jouer au millième près et que ça va être très serré entre les top teams. Et évidemment, on ne peut pas enterrer aussi un Max Verstappen qui, à chaque fois, sorti de nulle part, nous fait des tours d'anthologie.
Ouais, mais là, t'es en train de tous me laisser sortir, là. Ok, non, mais oui, bien sûr.
Mais en tout cas, Mercedes n'est pas forcément en bonne par rapport à d'autres tracés, n'a jamais été aussi moins bien positionné, on va dire, par rapport aux autres.
C'est ce que j'allais demander à Elias. Est-ce que c'est pas le pire Grand Prix avant de, potentiellement, bien évidemment, sur le papier, hein, nous on fait des projections, on peut se tromper, mais sur le papier, est-ce que c'est pas le pire Grand Prix, le pire match-up, comme on dit, pour Mercedes là, Mercedes-Monaco, on a la sensation qu'ils sont pas dans une situation dominante, Elias.
Bah, c'est clair, je pense que c'est clairement le pire Grand Prix pour eux pour l'instant, parce que bah, Ferrari a l'air clairement devant. Je pense même que la McLaren se comporte peut-être mieux en virage que la Mercedes, ou en tout cas a peut-être son épingle à tirer. Et ensuite, bah, c'est Raphaël l'a dit, Verstappen, avec un petit feeling, il peut toujours se mettre devant eux. Donc c'est clair que pour Mercedes, rien n'est gagné. Bon, ils ont apporté un sixième aileron arrière sur leur voiture. Donc on va voir ce que ça...
Ouais, raconte-nous ça.
Il me semble qu'il y a Mercedes et Red Bull. J'ai vu qu'ils... Ouais. C'est une petite appendice sur leur aileron arrière pour gagner de l'appui. Je pense que ça prouve à quel point aussi Mercedes a peut-être un petit retard sur l'appui aérodynamique. Donc non, je les vois clairement derrière. Je pense que Ferrari est favorite. Mais comme la Serafin l'a dit, Monaco, il y a la hiérarchie et il y a le feeling. Et le feeling de la voiture, surtout si c'est une nouvelle voiture, est très important. Et c'est pour ça que Hamilton a peut-être un peu gagné en feeling ces derniers Grands Prix et peut être un peu le bonhomme de ce week-end.
Parlons-en de Lewis Hamilton là, qui est en train de retrouver de vraies belles couleurs avec la Scuderia, qui a largement dominé Charles Leclerc au Canada. C'est un peu le Grand Prix de la confirmation pour lui. Si là, il va faire quelque chose sur les terres de Leclerc, on connaît franchement la performance de Charles Leclerc chez lui dans son Grand Prix. Ça pourrait marquer les esprits là, Hamilton, ça, enfin.
Ah bah c'est sûr, hein. Hamilton, quand même, là, on est...
Tu le vois en capacité de venir le chatouiller, là, Leclerc, ce week-end, ou ça va être trop compliqué?
Il en est capable. C'est pas forcément une course où il a été toujours le meilleur, on va dire. Ou en tout cas, par rapport à Charles, c'est vrai que sur le garçon de la qualification, Charles, il a quelque chose en plus. Mais quand même, depuis le début de la saison, c'est vrai qu'Hamilton n'a jamais été aussi proche de Charles Leclerc. Je trouve qu'il y a une convergence un peu entre les deux. Là où, avec Hamilton, on a l'épisode de la Chine où il avait été particulièrement à l'aise. Mais là, c'est vrai qu'on sent que ça tend à se resserrer. Hein. Il n'y a rien qu'à voir au classement. Hein. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux. Leclerc est 3e à 75 points. Hamilton est derrière. Donc, ça peut se jouer. Et au vu de la confiance, il joue aussi beaucoup sur cet aspect-là. Hamilton est un peu dans un mindset. Donc, s'il continue comme il a fait au dernier Grand Prix, oui, je pense qu'il est assez à l'aise. Il peut. Et ça va mieux aussi sur les freinages, parce que c'était un de ses problèmes aussi l'année dernière avec les
ouais,
freins.
Ouais, ouais.
Donc, il peut venir jouer vraiment entre Charles. Ça peut être beau. Hein. Ça peut jouer. Si on a une double. Si on a une Ferrari ou les deux en première ligne, ça serait magnifique. Ça serait génial.
Ah ouais, on a envie de voir une petite bagarre encore. Leclerc-Hamilton à Monaco, ça serait joli. Tiens, petite info, McLaren qui fête son 1000e Grand Prix à Monaco. Il y a une petite livrée spéciale là.
Alors, 1000e voilà. Ou 999?
Ouais, ils sont un peu pompés.
Parce qu'il y a un débat sur ça.
Ah oui, alors, en fait, au niveau statistiquement, ils sont pas vraiment au 1000e Grand Prix, effectivement. En fait, c'est... Bon, après, c'est normal parce qu'évidemment, Monaco, tu l'as dit, ça reste tellement à prestige. Mais officiellement, ce n'est pas leur millième Grand
Donc,
Prix.
Donc, les mecs, ils ont fait une livrée spéciale pour leur 999e Grand Prix en disant que c'est le millième. C'est fou, ça, quand même.
Ouais, c'est une question de chiffres et de livres d'histoire. Mais effectivement, ouais.
Enfin, d'accord, mais bon. Non, mais tu vois, c'est comme si toi tu dis j'ai commenté mon 100e Grand Prix alors que c'est le 98e, juste pour faire joli, quoi. Ça n'a aucun sens.
Ouais. Parce qu'on s'affiche sur les sponsors aussi, on sait que la voiture va être belle, donc c'est pour bien la montrer aux yeux du monde.
Ouais, par contre, la livrée spéciale est sympa. Je crois que Lego a fait un petit truc sympa aussi, qui est un de leurs partenaires. Enfin, voilà. Les gars, je vais terminer ce podcast en vous demandant vos pronos. Pour ce Grand Prix de Monaco, vous nous l'avez un petit peu dit là dans le rapport de force, mais quel pilote vous voyez vraiment performer? J'ai aussi envie de savoir si dans votre esprit Antonelli peut continuer sur son incroyable série, même si on l'a vu un peu plus en difficulté au Canada. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de Antonelli depuis le début du podcast. Mine de rien, il est en train de marcher sur le championnat, il est en train de marcher sur son coéquipier George Russell. Monaco, c'est particulier pour lui, ça va être un vrai test. S'il arrive à faire quelque chose, peut-être à s'installer sur le podium, ça veut dire qu'il aura encore gapé dans sa progression, hein, Antonelli, en tout cas selon moi.
Ouais, c'est clair. Je pense que si dans un Grand Prix où il n'est pas du tout favori, il arrive à, ne serait-ce que, je pense, se glisser sur le podium, ou en tout cas embêter les favoris, là, il va clairement poser les bases et dire que c'est lui qui est le favori pour le championnat et qu'il va aller le chercher.
Les gars, tiens, je vous interromps 3 minutes parce qu'on a invité de Marc dans le paddock RMC. On voulait faire un petit coucou à Olivier Panis pour fêter les 30 ans de sa victoire à Monaco. Salut Olivier.
Salut et désolé pour le retard, merci.
Wow, il n'y a jamais de retard, Olivier, on sait. Mais j'imagine que là, en plus, tu dois être en route pour Monaco, là, parce qu'il y a des choses qui sont prévues ce week-end, non, pour célébrer
Ouais, la CM m'a invité gentiment, donc là, je viens d'arriver à l'hôtel, j'étais coincé à la réception, je pouvais pas vous répondre, je suis désolé, mais voilà, je suis arrivé, donc c'est cool.
Non, mais t'inquiète pas, moi aussi, j'étais coincé à la réception pour récupérer mon accréditation, tous dans la même galère. Bon, Olivier, faut que tu nous racontes quand même. Il faut que tu racontes aux auditeurs du paddock cette victoire incroyable à Monaco. Ça fait déjà 30 ans. Moi, je voulais te demander ce qu'il en restait de ce Grand Prix de folie.
Écoute, si on m'avait dit ça fait 5 ans, j'aurais dit ah ouais, c'est ça. Donc 30 ans, ça fait loin, énorme. Mais par contre, ce qui est super étonnant, c'est les souvenirs, ils sont toujours là. Et que les gens et les fans m'en parlent encore, moi c'est ça qui me surprend vraiment beaucoup et qui me fait plaisir, c'est que un pilote français, une voiture française, c'est vrai que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, et peut-être ça mettra encore un peu de temps, en tout cas j'espère le plus vite possible pour nos pilotes français, mais oui c'est un grand plaisir d'être là et de pouvoir partager encore des moments comme ça.
C'était une course de malade, Olivier, rappelle-nous un petit peu tout ça, mais des conditions météo de fou. Je crois qu'il y avait tout eu un petit peu. Ça avait été mouillé, après ça avait séché. Enfin, voilà, une course ça, pas comme les autres, quoi.
Non, non, c'était atypique à Monaco. On est parti sous la pluie battante. Il y a eu des accrochages déjà au premier virage, au premier tour. Ça s'est asséché. J'ai pu dépasser 7 voitures sous la pluie, qu'à Monaco, bah, c'est dur de dépasser. Donc, les conditions ont fait que. On s'est arrêté plutôt au stand pour passer des slicks quand c'était encore gras mouillé. Enfin, c'était une course de fou. Et c'est vrai qu'on avait une bonne voiture pour ici. On voulait marquer des points. On ne s'attendait pas à la victoire, évidemment. Et puis le fait que, ben, à Monaco, tout est possible, quoi. Donc, voilà, j'en suis encore la preuve. Et on a pu gagner ce Grand Prix avec, avec cette équipe. Et c'était juste fantastique, vraiment fantastique.
À quel point ça a changé ta vie, cette victoire?
Ça l'a changé complètement, hein. Pour être honnête, ça l'a changé complètement. Tu t'es regardé dans le paddock par un autre œil, par des yeux différents, parce que tu es vainqueur de Grand Prix, et surtout à Monaco, qui est l'un des Grands Prix les plus difficiles de l'année. Et puis ça a ouvert des portes pour la suite, et même aujourd'hui, cette victoire, elle me sert encore aujourd'hui pour plein de choses que je fais avec l'écurie maintenant, que je fais l'endurance et les 24 heures du Mans. Ça m'a ouvert beaucoup beaucoup de portes, il faut être honnête, hein. Donc c'est une chance de pouvoir avoir pu gagner ce Grand Prix, et que ça, tout ce qui a découlé derrière, ça en a fait partie.
Ouais. Bon, Olivier, avant de te laisser, juste on va te demander un petit peu tes sensations avant cette course de ce week-end. Là, on était en train de faire un petit peu nos pronos. On se disait que Ferrari, qui est très à l'aise en virage, avait peut-être un avantage, surtout avec Charles Leclerc qui maîtrise ce circuit par cœur. C'est quoi un petit peu ta sensation là, avant ce Grand Prix de ce week-end?
Moi, je pense que la Ferrari, je pense que c'est le meilleur châssis qu'il y a sur le plateau. Donc, je pense qu'ils vont être rapides ici, très rapides. Et que ce soit Charles ou Lewis, je pense qu'ils vont jouer devant. Après, moi, je suis chauvin, tu sais, je suis jamais parti à l'étranger. J'ai toujours resté habité en France. Donc, je me sens bien un petit Adjar avec la Red Bull quand même. Donc, ou en tout cas, un des trois pilotes français. Mais Adjar, je pense qu'il a quelque chose à faire ici. Voilà, personnellement.
Ouais, ça serait magnifique. Et le début de saison d'Antonelli, t'es surpris de voir un petit jeune, un gamin comme ça, là, dominer?
Magnifique.
Ouais, c'est fou, hein?
Magnifique, franchement, le gamin, il est canon, il est marrant, il vit son truc à fond, il a 19 ans, sur la piste, c'est un guerrier, et il gère bien ses courses. Franchement, bluffant, et je pense que ça va être dur de le rattraper maintenant. À mon avis, ça va être compliqué pour les autres.
Olivier, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps, d'être dans le paddock RMC avec nous. On te souhaite un bon week-end, profite bien, faites bien cet anniversaire, et on te retrouve très très vite dans le paddock RMC. Merci beaucoup.
Et ben voilà, les gars. Merci beaucoup à tous.
Salut Olivier. Voilà les gars, on pouvait pas mieux terminer ce paddock RMC quand même.
Exceptionnel.
Mais en plus, vous étiez même pas né à l'époque de la victoire d'Olivier Panis.
Vraiment pas.
Alors,
vraiment pas.
C'est ça qui est, non, mais ça qui est paradoxal, il a dit Olivier Panis, c'est que oui, on n'était pas né lors de sa victoire, mais on a forcément entendu parler, on a forcément regardé. Ça, c'est fait partie du patrimoine en fait, presque français dans le sport, de façon globale. Sa victoire en 96, et tu l'as dit, avec des conditions complètement extrêmes, parti 14e. D'ailleurs, son écurie avait même eu le choix de partir avec le carburant au maximum, et ça lui avait réussi. Donc oui, c'est un Grand Prix qui reste encore aujourd'hui référence dans la Formule 1 et dans les victoires à Monaco. Donc on peut que lui souhaiter encore une fois un joyeux anniversaire, en tout cas de réussite pour ce qu'il a fait avec une écurie française, il l'a dit, avec la Ligier JS43 à l'époque.
Ouais, exceptionnel cette victoire d'Olivier Panis. Moi j'étais né, les mecs. Bon, j'étais pas bien vieux, mais j'avais 5 ans, mais j'étais né. Je me rappelle pas, autant vous dire. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir analysé ce Grand Prix de Monaco. On se retrouve lundi pour débriefer tout ça. Et puis je vous le disais, restez connectés. On va essayer de vous faire des petites cartes postales là tout au long du week-end. Vendredi, samedi, dimanche, vous présenter un petit peu les coulisses de Monaco. On va essayer de bosser sur ça. Donc voilà, il va y avoir du contenu pendant ce Grand Prix de Monaco.
Ça roule déjà derrière toi. On entend la Porsche qui roule derrière toi.
Ça roule derrière moi. Alors j'ai aucune idée de quelle formule est en train de rouler parce que j'ai pas le programme sous les yeux.
Si, on est en live en même temps, il y a la Porsche qui roule.
Voilà, vous êtes plus au courant que moi, c'est magnifique. Et ben je vais aller voir ça, les gars.
Ouvre la fenêtre.
Ciao, ciao et à lundi.
Ciao, ciao, bon week-end.
Salut.
Le paddock RMC.